Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Qui t'a promis ça ?
Les grandes gueules du sport.
Donne des noms !
Jean-Christophe Drouet.
10h09, les grandes gueules du sport en ce dernier week-end avant les Jeux Olympiques. Toujours avec Fred Veil ce matin, Marie Martineau, Renaud Longuèvre, Jérôme Pinault. Dans quelques instants, les suites de la tournée dramatique du 15 de France en Amérique du Sud. Êtes-vous choqué, les GG, par les sorties nocturnes, même après l'affaire du viol aggravé ? Ce sera le bras de fer des GG. 10h30, Lance Armstrong s'invite dans la punchline des GG. J'ai un conseil pour Tadej Pogacar, faire profil bas et laisser quelques miettes à ses adversaires, d'accord ou pas d'accord avec l'ami de Jérôme Pinault. L'affaire des chants racistes argentins qui tourne à l'incident diplomatique, ça c'est notre débat à 11h. Les joueurs argentins plaident le chambrage et le malentendu culturel. Cette polémique ternit-elle les titres de cette sélection argentine? Et puis, écoutez-moi bien, chers auditeurs, car nous avons un magnifique cadeau à vous faire gagner ce matin dans les grandes gueules du sport. Vous allez pouvoir remporter l'expérience RMC JO. Vos places pour les meilleures épreuves de Paris 2024. Aujourd'hui, nous vous offrons deux places pour assister aux épreuves de judo le 30 juillet au Champ de Mars Arena à Paris. Vous assisterez à la finale femmes des moins de 63 kilos et à la finale hommes des moins de 81 kilos. Avec tout ceci, nous ajoutons deux entrées VIP au Club France. Ce sera à la grande halle de la Villette. D'ailleurs, nous y serons pour les émissions RMC. Pour remporter vos places dans cette émission, le grand vainqueur sera appelé dans une heure. Envoyez Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16. Deux places pour le judo en une heure. C'est maintenant, c'est facile, c'est tout de suite. À vous de jouer.
RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ?
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame ?
La tournée du 15 de France en Amérique du Sud est décidément un long chemin de croix. Déjà les dernières informations. Nous avons appris mercredi qu'Oscar Jégou et Hugo Oradou, accusés de viol aggravé en Argentine, ont été placés en résidence surveillée le temps de l'enquête après avoir connu plusieurs jours en détention provisoire. C'est donc une première victoire. Hier, leur avocat argentin a trouvé bon de poser et de publier une photo avec les deux joueurs français sourire aux lèvres de leur nouveau domicile de Mendoza, une vidéo qui a fait polémique. La défense demande des sanctions. Et cette semaine, nous avons également appris que malgré cette affaire, extrêmement grave, des joueurs du 15 de France ont demandé à continuer leur sortie nocturne comme si de rien n'était. C'est l'objet de notre débat, les sorties des joueurs du 15 de France après cette affaire. Êtes-vous choqués, les GG ? Dans le coin gauche, la team non, représentée par Fred Weiss. Tout seul. Ouais. Dans le coin droit, la team oui, Marie Martineau, Jérôme Pinault, Renaud Longuèvre. Avant de débattre, mes GG, nous allons retrouver la voix du rugby sur RMC. C'est Wilfried Templier. Bonjour Wilfried.
Bonjour Jean-Christophe.
Hello.
Salut à toutes et à tous.
Bonjour.
Alors ce sont maintenant les sorties de certains joueurs du 15 de France, je le disais, qui font polémique.
Oui, pour le contexte, nous sommes en fin de tournée et les joueurs qui ont participé au match en milieu de semaine en Uruguay entre les deux tests contre l'Argentine, sont de retour à Buenos Aires. Mais eux, ils ont terminé leur tournée, tout simplement. Et avant le deuxième Argentine-France, auquel ils ne participent pas, ces joueurs-là ont demandé à sortir. Jean-Marc Lhermé, vice-président de la Fédération française de rugby, délégué au haut niveau, l'a confirmé.
C'est vrai qu'il reste des joueurs pour lesquels la tournée est terminée, qui sont venus nous voir pour comprendre ce qu'ils pouvaient faire ou ne pas faire sur cette fin de tournée par rapport aux circonstances. Donc on a discuté avec eux, on les a autorisés à sortir de l'hôtel pour aller manger dans les restaurants, pour profiter de la ville, pour éventuellement boire quelques coups en ville de façon contrôlée. On leur a demandé de rester dans l'hôtel s'ils devaient rester un peu tard en soirée ensemble pour échanger, pour parler. Voilà, c'est les consignes qui avaient été données.
Alors, il faut savoir que Jean-Marc Lhermé nous dit ça pendant la conférence de presse qu'il a tenue avec le président de la FFR, Florian Grill. C'était en début de semaine. Et Florian Grill était à ses côtés à ce moment-là. Et au moment où Jean-Marc Lhermé nous expliquait ça, il a commencé un peu à se figer dans une sorte de colère froide. Parce que le matin même de cette conférence de presse, il y a eu une autre info qui a fait surface, celle selon laquelle une partie des joueurs du 15 de France, après le dernier match contre l'Argentine, serait aussi sortie le dimanche, donc dernier jour de tournée avant de rentrer en France. Mais ça, Florian Grill l'a découvert le jour de sa conf de presse. Alors, quand Lhermé a fini son propos, Florian Grill a pris le micro.
Pour compléter, le soir du troisième match, il y avait la remise des capes
Et donc il y avait à la fois un dîner et un pot commun avec l'ensemble des équipes. Il y a des joueurs qui ont demandé la possibilité de sortir. Jean-Marc a été voir le capitaine Baptiste Serin en lui disant non. Voilà. Donc s'il y a eu des sorties malgré tout, ben, c'est un dérapage de plus qui ne correspond pas au cadre qu'on avait fixé. Parce que voilà, on leur avait dit oui, on peut boire un coup ensemble, mais vous restez à l'hôtel. Et on a dit à Baptiste Serin, capitaine, on ne veut pas qu'il y ait de sorties supplémentaires après ce troisième match. Vous pourrez continuer à être ensemble et à passer du temps ensemble, mais à l'hôtel. Si ce n'est pas le cas, c'est un dérapage de plus.
Alors les dirigeants nous disent hors micro qu'ils ne peuvent pas non plus faire le guet à l'entrée de l'hôtel, hein, que si les joueurs n'ont pas la conscience du retentissement négatif en France de cette tournée, bah c'est grave. Le cadre est-il assez ferme ou les joueurs sont-ils justement inconscients? À vous de voir, mais on se dit quand même que parfois, et particulièrement au moment même où les joueurs avaient deux coéquipiers emprisonnés, ils auraient pu se passer d'un ou deux verres à boire.
Merci beaucoup Wilfried Templier pour ces précisions importantes évidemment. Êtes-vous choqué les GG par ces sorties, par ces demandes de sortie des joueurs du 15 de France? Pour l'instant, vous avez largement répondu oui, chers auditeurs, à 76%, 24% pour le camp du non. Fred Weiss, tu es tout seul et tu commences. Pourquoi non?
Alors déjà, je veux vraiment mettre les choses au clair. Pour moi, il y a deux types de sorties. Les sorties autorisées et sorties marginales, j'ai envie de dire, celles qui ne sont pas autorisées, qui ont été apprises au dernier moment. Alors pour moi, celles qui sont autorisées me paraissent normales, on demande à sortir, on a le droit, ils continuent à manger, ils continuent à vivre, malheureusement, alors oui, il y a quelque chose d'affreux qui s'est passé autour, mais eux, personnellement, n'ont rien fait, d'une part. Ensuite, est-ce que sortir dans ce moment de traumatisme, parce que pour une équipe, c'est un traumatisme qu'ils ont vécu, est-ce que ça leur fait pas du bien aussi de se retrouver, de parler ensemble, etc., dans un contexte où on mange juste, on boit un ou deux verres et on rentre à l'hôtel, plutôt que de rester enfermé, alors qu'encore une fois, eux ne sont accusés de rien, ils n'ont rien fait, et ce serait un peu injuste de les empêcher de vivre. Alors encore une fois, je suis contre les débordements, je suis contre qu'ils boivent trop, mais aller manger, de toute façon, ils auraient mangé à l'hôtel ou là. C'est juste qu'ils sont dans une ville peut-être qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'auront plus la chance de voir, et autant qu'ils en profitent. Et deuxièmement, sur les sorties que je ne tolère pas, c'est celles qui ne sont pas autorisées. Ça, pour moi, c'est absolument choquant. Effectivement, il y a un cadre, il y a eu des débordements, s'il y a eu des choses affreuses, j'ai même pas envie de dire tous les mots que je ressens par rapport à ce qu'il a pu se passer, même s'il y a une présomption d'innocence, mais que tu puisses sortir en dehors des règles, que en fait ton patron te dise tu n'as pas le droit de sortir et tu sors
je
quand
comprends.
Même,
ça me choque. Donc même la démarche ne te choque pas, la démarche de demander, je pense que les GG vont pas être d'accord avec toi. Jérôme Pinault, tu voulais prendre la main et je sens que t'a regardé avec deux billes.
Attentivement, j'ai écouté.
Ok, Jérôme Pinault.
Non, mais je peux pas être d'accord avec toi, Fred, dans le sens où quand tu me sors l'argument, mais ils sont dans une ville qu'ils reverront jamais. Mais ils sont dans le cadre d'une compétition avec une fédération, avec un pays.
Ils ne jouent plus.
Et un pays.
Ils n'ont plus.
Ils ne jouent plus, mais ils sont dans le cadre de la fédération qui les a amenés là-bas. Qui les a emmenés là-bas. Et quand tu as deux coéquipiers qui sont accusés d'atrocité, on verra ce que donnera l'affaire. Quand tu as un autre qui a quand même défrayé la chronique avec des propos racistes, mais tu te la fais toute petite, tu restes dans la chambre, tu bois un coup avec tes copains au bar et tu rentres en France et tu te fais tout petit. Ça n'est pas normal de voir ce genre de sportif qui, en plus, a tendance à donner des leçons de valeur de son sport, qui continuent à vouloir sortir et faire les cons alors qu'ils ont c'est même plus des pancartes qu'ils ont sur le dos. Ils croient qu'ils n'ont pas conscience.
Non, Jérôme,
mais non, Fred.
En fait, mais cadré. En fait, en
gros, mais même plus cadré. Mais là,
parce qu'ils mangent quoi qu'il arrive,
non,
et ils ont le droit de boire un ou deux verres et rentrer à la chambre.
Évidemment,
c'est pas non plus la folie. Si tu ne respectes pas ça, je suis d'accord avec toi. Si tu
ils en sont pas capables, Fred.
Les faits. Mais dans ce cas-là, il y a un vrai problème.
Jérôme, vas-y.
Mais s'ils sont pas capables d'être professionnels, là, il y a un vrai problème.
Les faits ont prouvé. C'est quand même pas la première fois que t'entends parler des rugbyman que quand ils sortent, c'est le bordel. Les faits ont prouvé par le passé et par des scandales, Fredo. C'est pas, ils ont pété une vitre d'un truc, ils ont joué, ils ont sonné aux portes, ils sont barrés en courant. C'est pas des gamins, là. Là, on parle de faits graves. Quand tu arrives à ce moment-là, dans une tournée où tout s'est mal passé, où c'est un fiasco et en plus, il y a des scandales judiciaires, mais tu demandes même pas à sortir. Tu restes à l'hôtel et t'as juste hâte, c'est de rentrer en France, expliquer à tes proches que toi, t'y étais pas, parce que finalement, ces deux-là, ils sont pris la main dans le sac, ils sont accusés de choses, mais j'imagine que les autres, ils ont dû quand même avoir des coups de fil de la maison pour savoir où ils étaient ce soir-là. Et après, tu rentres et tu te fais tout petit. Tu ne peux même pas demander cela. Tu rentres, tu es solidaire, tu dis, les gars, si tu es un vrai grand capitaine, tu dis non, les gars, je vais pas aller demander au coach, je vais pas aller demander au président. On va rester tranquille, on va se parler. Ça nous empêchera pas de bien manger. Ça nous empêchera pas de boire une ou deux bières ensemble dans l'hôtel. Mais on ne sort pas pour éviter ce qui se passe, d'amplifier encore plus ce qui se passe. Pourquoi on fait un débat aujourd'hui encore? C'est parce que ce sont des vilains garçons, les mecs. Ils sont tous mis à la même enseigne. Et quand t'es mis à la même enseigne que les autres, bah, t'en rajoutes pas. Pour moi, tu n'en rajoutes pas. T'as un maillot. Tu représentes une nation.
Mais ça gêne pas qu'on met tout le monde à la même enseigne alors que deux personnes ont fait des choses.
Ah, parce que c'est que ces deux-là, alors, du coup. Tu condamnes ces deux-là, alors.
Il y a deux joueurs qui sont accusés. Évidemment, il y a la présomption d'innocence. Mais c'est le reste. Là, on ne s'occupe pas de l'affaire. On s'occupe du reste du groupe qui a demandé à sortir. C'est ça l'objet de notre
question. Oui, mais quand j'ai vu la.
En quoi on doit intervenir sur ça? En quoi on doit intervenir sur ça?
Marie Martineau.
Je vais essayer de reculer un tout petit peu et de dézoomer. Je crois que ça en dit long sur la déconnexion. En fait, qu'ils aient décidé d'y aller quand même, de sortir ou pas. En plus, on n'est pas vraiment sûr. Hein. Le papier de Wilfried le dit. On parle au conditionnel et tout. Mais se poser la question de sortir ou pas, d'aller faire la bringue ou pas, ça en dit quand même long sur la déconnexion. Je veux dire, de base, tu es représentant de l'équipe de France. C'est pas rien, quoi. Tu es représentant de l'équipe de France. C'est hyper important. Et donc, tu es tenu à un certain standing, à une certaine élégance, à une certaine classe. Ne serait-ce que par respect pour tous les autres qui n'ont pas réussi à accéder à ces places en équipe de France. Et donc, tu te retrouves là, il y a une tournée qui part en cacahuète, clairement, alors à juste titre, à mauvais titre, mais en attendant, les faits sont là, les médias s'en emparent, ça brasse dans tous les sens. Mais exactement, je suis d'accord avec Jérôme, tu fais canard, tu rentres à la maison, tu fais profil bas, et c'est la moindre des choses que tu peux faire pour toi, pour l'équipe, pour les gamins qui aiment ton sport, pour la jeunesse qui arrive derrière et les plus jeunes. Enfin, et du reste, il y a eu une sortie en conférence de presse du coach des U20 qui disait, j'espère qu'une chose, c'est que ça va servir à changer, à faire en sorte que les gamins qui arrivent derrière se comportent autrement, prennent en considération le fait que on ne peut plus vivre et faire comme on faisait avant. Toutes ces histoires de troisième mi-temps, de beuveries
de beuveries, de fêtes, etc. Moi, je parle de sortir en équipe quand on a vécu quelque chose qui est affreux pour une équipe.
Oui, mais tu viens d'un sport où on n'a pas la culture de la troisième mi-temps. Tu vois. Enfin, là, on parle de gens où. Le rugby, c'est quand même un sport où il y a des mecs, ils ont 30 ans, ils sont alcooliques.
Non, mais
ils sont sportifs de haut niveau et alcooliques.
En fait, on pose la question, et pour moi, je l'ai étendu à tous les sports, si c'était passé dans tous les sports. Je ne parle pas que de rugby dans cette figure.
J'entends, mais que les joueurs professionnels demandent à sortir, c'est une chose, mais qui demandent à sortir dans un contexte où ils ont deux coéquipiers. D'ailleurs, le président le rappelle, ils ont deux coéquipiers en prison.
Oui, mais on l'aura accepté. J'y sais. On est en train de faire un procès d'intention à des gens à qui on a accepté de sortir.
Mais c'est la démarche. C'est la démarche de demander en ville.
J'en veux autant au gars qui leur a autorisé de sortir, là, Fred.
Sauf que dans ce cas-là, on n'a pas à intervenir. Si c'est cadré, si c'est bien fait, si tu vas juste manger, que tu bois juste un coup et que tu rentres, moi, j'ai pas de problème. Effectivement, les débordements, c'est-à-dire les beuveries, les troisièmes mi-temps exagérés, etc., moi, je suis complètement contre. Mais on ne peut pas empêcher des gens d'aller manger et d'essayer de parler justement pour parler de ce qui s'est passé dans l'équipe.
Justement,
aussi.
Sur la responsabilité, on parle des joueurs, sur la responsabilité de l'équipe encadrante. Déjà, on va réécouter Florian Grill en conférence de presse sur changer les règles désormais ces sorties peut-être. On l'écoute, le président de la Fédé.
On va changer les règles. Simplement, on veut pas une décision verticale qui tombe d'en haut. On veut le faire en concertation avec les staffs de nos 14 équipes de France, avec les joueurs, et en concertation aussi avec la Ligue nationale de rugby. On comprend qu'il y ait besoin d'une soupape, mais pas au point d'aller dans ces extrêmes qui sont d'ailleurs de toute façon incompatibles avec la performance sportive. Donc on va renforcer la démarche, à la fois dans la sensibilisation, mais aussi dans les sanctions. Il faut en passer par là, et que c'est un enjeu de survie pour le rugby français.
Renaud Longuèvre, on parle de sensibilisation, il faut passer avec la Ligue, avec les joueurs, il faut discuter. Est-ce qu'à un moment donné, le cadre n'est pas assez ferme? Et c'est aussi pour ça que les joueurs demandent à sortir. Est-ce que c'est aussi ton regard, et que la Fédé a aussi son rôle à jouer et a peut-être tort dans cette histoire?
Je pense qu'il y a une révolution à faire en profondeur. Alors bon, moi ça commence à remonter, mais l'expérience courte que j'ai eue dans le monde du rugby pro, c'était au Stade Français année 2008, où je leur filais un coup de main sur la prépa athlétique. Et je me souviens d'avoir été choqué de l'entraîneur des espoirs qui me dit là, on est allé jouer un match en Belgique, je sais pas quoi, on a perdu, mais au moins ils ont retourné le TGV et ça a serré le collectif. Et dans ma tête, je me dis, mais attends, c'est quoi ce délire, quoi? Donc oui, il y a une culture qui est malsaine et qu'il faut arriver à en profondeur. Il faut changer tout. Il faut complètement inverser le paradigme. Le sport de haut niveau, c'est complètement schizophrénique. Tu mets des nutritionnistes, des spécialistes du sommeil, des spécialistes de tout. Et puis à côté de ça, t'as des mecs, ils sont pas capables de rester dans leur piole et de regarder Netflix. Enfin, je sais pas. Alors ça pose aussi le problème du calendrier, parce que tu te dis bon, les mecs ils voient cette tournée là peut-être ils sont pas aussi pros qu'avant une Coupe du Monde, parce que pour eux c'est un peu bon bah allez, on y va en équipe de France, mais bon, on sait très bien qu'il n'y a pas trop d'enjeux, donc on y va aussi pour faire la teuf, quoi.
Ouais,
donc
mais c'est aussi ça qu'il faut voir. Renaud, là, dans ce cadre-là, en plus, moi, ce qui, alors là, on vient dans le sport et purement le sport, et je suis d'accord et je rejoins tous les arguments que tu donnes, et j'en rajouterai un d'autre, c'est que les cadres sont restés en France. C'est des gars qui sont là-bas sont en majeure partie c'est des gens qui vont là-bas et qui essayent de gagner leur place en équipe de France.
Exactement.
C'est
encore
pire. Ouais, tu as entièrement raison, c'est vrai.
C'est oui, mais on parle tout de suite de débordement. Moi, je pense que quand on demande à sortir.
Tu peux pas nier les faits. Les faits, c'est qu'à chaque fois qu'ils sortent, ça déborde quand même.
Non, bah non, la preuve, la fois où ils sont sortis, ils ont demandé à sortir, il n'y a pas eu de débordement. Pas de débordement à Fitchy, en tout cas.
Et
moi, tous les arguments que vous utilisez, je suis d'accord avec vous. Tous ces débordements, toute cette culture du rugby, etc., il faut la changer. Mais quand on fait un sport de combat, quand on se bat pour son coéquipier, surtout, de temps en temps, aller manger un bout ensemble, boire un ou deux verres, et encore une fois, je me répète, un ou deux verres, et rentrer, il n'y a rien de négatif à ça.
Très bien que
et
c'est
je
pas
pense
ça.
Que
mais là, tu parles d'un truc qui n'existe pas. Ouais, là, tu nous parles d'un truc qui n'existe pas, Fred.
Mais qui devrait exister, justement, et peut-être que dans ce cas-là, le cadre, effectivement, n'est pas bon. Mais à partir du moment où la fédération a accepté cette sortie, je ne vois pas pourquoi
on dirait. Moi, le discours de Florian Grill est vraiment intéressant. Oui, pardon, excuse-moi. Le discours de Florian Grill est très mesuré. Est intéressant et pondéré.
Mais
moi je trouve que pour le coup, ce qu'il raconte a un vrai sens et il est bien conscient que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, qu'on ne va pas changer les mentalités, qu'il va y avoir des réticences parce que le changement, c'est pénible, le changement ça fait peur, le changement ça énerve. L'apologie du machisme, de l'hétérosexualité, de l'alcool, enfin tout ça c'est plus entendable, malheureusement.
Alors est-ce que Jérôme, je te donne la main dans quelques instants, mais je voudrais vous faire écouter quelque chose de très important, parce que j'entends tout ce que vous me dites sur le cadre, mais il y a un moment donné, ok, on peut en vouloir aux joueurs de demander à sortir, mais Fabien Galthié, il était là-bas en Argentine, oui. Fabien Galthié, est-ce qu'il, après cette histoire des deux joueurs, est-ce qu'à un moment donné, Fabien Galthié, il prend pas tout le monde dans une salle, il leur dit le premier qui sort, parce que là, ok,
il revient plus jamais en équipe de
France, vous ne sortez pas. Vous ne pouvez pas sortir après ce qui s'est passé, ce n'est pas possible, ce n'est pas de votre faute, mais vous ne pouvez pas sortir. Parce que je voudrais vous faire passer un extrait.
L'image.
Nous sommes en décembre 2019, Fabien Galthié vient de prendre ses fonctions. Et dans un reportage de Stade 2, d'ailleurs qui a beaucoup fait parler, Fabien Galthié a adressé ses recommandations aux joueurs. Le nouveau cadre, le sélectionneur, avait laissé entrer les caméras lors de ses entretiens individuels avec ses joueurs. Et voici le discours qu'il a tenu à Venceslas Loret. C'était il y a 5 ans.
On doit être exemplaire. Déjà, c'est le premier niveau à remplir pour être candidat à l'équipe de France. On peut faire la moyenne. Même si c'est très important, mais il faut la cadrer. On ne peut pas faire n'importe quoi. Non, qui n'est pas négociable. C'est-à-dire que nous, dans le cadre de vie, on va vous donner, ce qui n'était pas fait, une planification sur la compétition. Si jamais il y a des joueurs qui disent oui et qui sortent du cadre, je dis, ils repartent. C'est-à-dire qu'il y a des taxis qui vous attendent. On n'en parle pas, on ne bataille pas, on ne laisse pas d'énergie. On ne bataille pas sur le sujet. L'énergie, on va la mettre dans l'entraînement.
Et on l'aime, ce discours. Oui. Et 5 ans plus tard, il n'y a plus de cadre.
Ben voilà.
Mais c'est pour ça qu'on l'aime, ce discours.
Oui, quand le sélectionneur de l'équipe de France te dit « on doit faire la bringue », c'est important. déjà c'est trop pour moi. C'est pas ouais, faire la moindre qui est important, c'est gagner des matchs, c'est gagner des titres. Quand tu es dans le cadre d'une sélection nationale, et je rejoins Fred dans, oui, ça fait du bien parfois de sortir en équipe, mais quand tout va bien, ou quand tout va très mal, mais sur le terrain, pas quand tout va mal dans les affaires juridiques. Et moi, je voulais ça, dire ça en plus oui. Tout à l'heure, c'est qu'on était en Argentine, d'accord ? C'est un scandale là-bas. Là-bas, l'image, c'est. Alors, on en reviendra dans un autre sujet tout à l'heure, les Argentins, ils sont ce qu'ils sont. Mais là-bas, c'est les joueurs de l'équipe de France sont potentiellement des violeurs. Oui, imaginez-vous la tête des gens qui sont dans le même resto et qui voient arriver l'équipe de France après tout ça encore venir au resto boire des canons. Mais c'est catastrophique pour l'image de l'équipe de France.
Ah mais oui.
Et pour la France. C'est encore une fois écorché. Moi, je suis peut-être trop Fred et tu vas me dire, ouais, mais toi, ok, mais quand tu portes le maillot de l'équipe de France, tu représentes ton pays. Et ça, il faut jamais
mais
l'oublier.
C'est pour ça que c'est ton pays qui le fait. En fait, je pense que les joueurs qu'ils aient le droit de demander à sortir, moi, je trouve ça normal qu'ils aient envie d'aller boire un coup, manger. Ouais, mais je vous rejoins sur le point que la Fédé, elle doit pas les autoriser. Et là, c'est complètement différent comme discours. Que la Fédé les autorise à sortir, ça, c'est la vraie problématique.
Ouais, okay, apparemment, c'est quand même une autorisation très très encadrée. Non, de base, non, mais juste par rapport à ce que disait Galtier en 2019, c'était facile de tenir ce discours-là en 2019, évidemment. Et là, c'est un peu plus difficile a priori de le appliquer parce que j'attends de voir ce que va advenir d'un mec comme Jaminet qui quand même sur le terrain a un impact tellement impressionnant que est-ce qu'il va le mettre en place ce qu'il avait dit en 2019 à savoir tu prends un taxi tu rentres à la maison.
C'est facile en plus parce que comme par hasard il y a Stade 2 hein. C'est comme par hasard quoi, c'est-à-dire que le mec il te dit ça, il y a les caméras. Le cadre, c'est pas de la com.
Ouais, mais là, il faut l'assumer.
C'est un vrai cadre.
Jérôme, justement, là, il faut l'assumer.
On va passer à autre chose. Les copains. Vous avez pu vous exprimer et donner votre avis. On finit d'ailleurs la consultation. Hein. Nous terminons à 76% des auditeurs choqués également par les demandes de sortie des joueurs du 15 de France après cette affaire de viol aggravé. Évidemment, toutes les dernières informations, c'est à retrouver sur rmcsport.fr. On se retrouve dans quelques instants pour parler du meilleur ami de Jérôme Pinault. Il s'appelle Lance Armstrong. Et vous savez quoi? Il a donné quelques conseils à Tadej Pogacar. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec lui? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h35 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi avec ce matin Marie Martineau, Renaud Longuèvre, Jérôme Pinault, Fred Weiss. Dans une dizaine de minutes, restez bien avec nous. On s'en fout pas. Le zapping des GG. J'ai du basket avec encore une défaite, Fred. Pour l'équipe de France, hommes. Les femmes, ça va bien. Les hommes,
moyen.
On en parlera dans quelques instants. Et puis l'affaire aussi, Wilfried Apio, l'une des stars hein, de notre athlée française, qui est une nouvelle fois accusée de violence conjugale avant les Jeux Olympiques. On en parlera, en tout cas, si ça vous intéresse. Les copains, c'est dans 10 minutes. Quand il parle, il agace, mais quand il parle, on l'écoute. Cette semaine, Lance Armstrong a délivré quelques conseils à Tadej Pogacar dans son podcast The Move. Le septuple vainqueur du Tour, déchu de ses titres pour dopage, estime que le Slovène attaque beaucoup trop. Il devrait se faire un peu plus discret. C'est la punchline des GG, rapportée par notre copine Siri. Allez, vas-y, Siri.
RMC, la punchline GG.
Cela ne fait qu'augmenter la tension sur lui. S'il y a des spéculations sur sa performance, ça n'aide pas. En agissant comme ça, tu ne te fais pas beaucoup d'amis. Tout ce que Pogacar a à faire maintenant, c'est de rester sur le vélo. Il va gagner le Tour de France, c'est fini. Parfois, il faut tenir compte de l'image que les gens ont de vous. En tant que coureur, vous devez vous rappeler que le Tour n'est pas exclusivement une compétition sportive. C'est aussi un événement politique.
Et Lance Armstrong rajoute qu'il doit faire profit bas un petit peu et arrêter d'attaquer sans cesse. D'accord ou pas d'accord avec Lance Armstrong? Marie Martineau.
Mais pas d'accord.
Pas d'accord. Fred Weiss.
D'accord.
D'accord, ça m'aurait étonné. Renaud Longuèvre.
Pas du tout d'accord.
Pas du tout d'accord. Ah, Jérôme Pinault.
Bah évidemment que non.
Évidemment que non. C'est quoi Jérôme, tu commences? Pourquoi? Ouais.
Bah pourquoi? Parce que déjà c'est une leçon de plus de la part d'un mec qui lui a tout fait l'inverse. C'est-à-dire que au-delà d'avoir volé cette Tour de France, d'avoir menti à des millions de personnes malades du cancer et d'avoir politisé son sport au point d'avoir acheté des instances, il a été tout sauf comment dire Alors, il parle de manque d'humilité de la part de Tadej Pogacar. Lui, c'était au-delà de tout ça.
L'arrogance incarnée.
Justement, c'est un super argument pour moi, ça. Ça veut dire qu'en gros, peut-être que lui, il a appris de ça. Il s'est rendu compte qu'il valait mieux être un peu plus humble et que peut-être que s'il avait fait profil bas, ça serait mieux passé pour lui.
Il y aurait eu moins de suspicions.
Il y aurait eu moins de suspicions, peut-être.
Non, mais c'est un bon argument, frère. Jérôme répond à ça.
Ouais. Non, mais je peux pas répondre à ça. Je peux pas répondre à ça parce que. Moi, ce genre de personnage m'écœure. Moi, j'ai fait partie de l'époque de Lance Armstrong. Je l'ai vécu, j'en ai été traumatisé.
Bah oui.
C'est-à-dire que le mec était capable d'acheter les instances, de faire taire tout le monde, jusqu'à aller chercher Gilberto Simeoni pour lui, lorsqu'il avait tenté de s'échapper dans une étape du Tour pour lui dire hey, « Toi, tu partiras jamais parce que je t'ai entendu, t'as dit que j'étais un tricheur, t'as dit que tu m'avais croisé chez un médecin, donc plus jamais tu gagneras une course et je te conseille même d'arrêter le vélo. » Il a harcelé ses équipiers. On va tricher, mais vous la fermez, sinon j'aurai votre peau. Il a fait taire certains journalistes. Il a fait taire certaines femmes.
On fait pas le procès d'Armstrong, là. C'est pas parce qu'un mec est un salopard, je suis désolé, pour le terme, mais c'est pas pour autant que ce qu'il dit peut ne pas avoir de sens, pardon.
Je comprends pas.
Ah bah, ça enlève un petit peu de sens, ce sera
peut-être ma dernière phrase, que je suis peut-être pas le mieux placé, parce que je vais m'énerver. Mais pour moi, Lance Armstrong, qui parle d'humilité et de valeur, c'est comme si Dutroux, il te parlait de l'éducation de tes enfants. Tu vois, c'est la même chose pour moi. Il a rien à dire, il doit fermer sa gueule sur tous ces sujets-là, c'est tout.
Mais moi, justement, moi j'ai envie de rebondir sur ça. Effectivement, je comprends tout à fait ce qu'il dit, et effectivement, j'adore Jérôme, et donc par capillarisation, j'ai envie de dire, je déteste Armstrong, ok ? Mais c'est pas pour autant que ce qu'il dit va forcément être nul, débile, sans sens.
Alors,
honnêtement, je suis pas le plus grand spécialiste de vélo, mais
c'est ma meilleure avocate, je suis sûr qu'elle va trouver des arguments.
Et juste. J'ai reçu plein de messages. Je ne suis pas le plus grand spécialiste de vélo, mais j'ai reçu plein de messages qui me disaient « Oh, on en a marre, Jorgensen était devant, pourquoi il allait lui piquer cette étape, etc. » Donc, c'est-à-dire que le public commence à dire « On en a un petit peu marre, parce qu'on aimerait bien que d'autres gagnent, vu qu'il avait le Tour gagné, ça ne servait à rien de faire ça. » Déjà. Ensuite, effectivement, en termes de suspicion, on a vu un mec qui passait, c'était un hors-bord à côté de pédalo.
Ça va.
Donc, forcément, dans ce sport où la suspicion est de rigueur, que ça soit
donc quoi,
vrai
donc
ou pas,
il ne doit plus faire de sport, donc, il ne doit plus donner tout ce qu'il a,
je suis en train de dire que je comprends ces mots.
Donc il doit écouter les conseils d'Armstrong.
Il doit écouter, je dis que ça serait réfuté sous prétexte que c'est Armstrong, je trouve ça ridicule.
Ok, Marie-Martine.
Alors, on part de ce qu'il dit. Il dit tout ce que Pogacar a à faire maintenant, c'est de rester sur le vélo. Mais qui il est pour nous dire ce que Pogacar, un athlète et mérite à faire sur le vélo, lui qui a fait n'importe quoi sur un vélo, tout
c'est
ce qu'il ne fallait pas
conseils,
faire.
Marie. C'est juste des conseils, Marie.
Non, mais ces conseils, il se les met où je pense. Il faut tenir compte de l'image que les gens ont de vous. Mais tous les gens qui réfléchissent un petit peu sur le self, le fait d'être bien, de se développer, le self-développement et tout, c'est l'inverse qu'on te dit. Tu vois, c'est surtout ne tiens pas compte de ce que les gens pensent de toi. Parce que la seule importance, c'est ce que toi, tu penses de toi et c'est comment toi t'avances. Donc, deuxième chose, ineptie totale. Enfin, le mec a, je sais pas, 50 ans, il n'a rien compris à la vie, c'est voilà, on est sur un niveau de développement personnel.
Zéro. Une vision différente.
Non, ça s'appelle le développement personnel. C'est pas moi qui l'ai inventé. Tu vois ce
que
je veux dire. Et en finissant, en tant que coureur, vous devez vous rappeler que le Tour n'est pas exclusivement une compétition sportive. Mais non, mais justement, en tant que coureur, la seule chose que c'est le Tour de France, c'est une compétition sportive. Les Jeux Olympiques, la seule chose que c'est une compétition sportive quand tu fais les Jeux. Enfin, sinon, dans ce cas-là, tu n'y vas même pas aux Jeux.
Tu vois. En fait.
Donc
c'est lui
qui
n'a pas une histoire de quoi en parler. Le sport, ce n'est que du sport. Le sport, évidemment, c'est la politique.
C'est une punchline. Il y a trois choses à en retirer. Les trois choses. Je suis mais choquée, arc-boutée contre. Et donc, après, bien sûr, je rejoins Jérôme qui dit carrément, au-delà de tout ce qu'il raconte, on ne devrait même pas lui donner la parole.
Ce mec-là, sur ce point-là, je vous rejoins. Sauf que quand il parle, si on entend ce qu'il dit, bah, tout n'est pas à jeter.
Je voudrais
ça me touche, ça, parce que ça fait du mal à mon sport. Encore une fois, ça fait du mal à mon sport. Pourquoi ? Parce qu'on donne toujours et on continue à donner la parole à ces gens-là qui ont disparu, qui ont triché.
Ça, je te donne raison.
Qui ont volé des titres et qui font exprès de faire ça. On sait très bien, et JC, tu l'as dit, il n'a pas la parole, mais dès qu'il dit quelque chose, on l'écoute. Et il sait très bien pourquoi, parce qu'il anime une émission, un podcast, mais et oui. qu'il veut faire du fric. Mais il continue à faire du fric sur le mensonge, sur les affirmations, sur les conseils, alors que lui, il n'a fait que de la merde.
Disons-le, ça le gêne particulièrement que quelqu'un fasse mieux que lui, que quelqu'un, évidemment. Peut-être sans s'en foutre plein les veines, arrive à faire quelque chose d'intéressant.
Ça, c'est pour le procès d'Armstrong. Mais Renaud Longuèvre, je sais qu'il va me recadrer ce débat sur le fond de ce qu'il dit. Parce que le débat a déjà existé. Est-ce que Pogacar, lors du Giro, il a gagné 6 étapes. Hein. À un moment donné, ses adversaires, ils en avaient un peu marre. Parce que, ok, t'as gagné, mais gagne pas tout. Parce que nous aussi, on est là pendant la course. Alors vous allez me dire, c'est pas une réflexion très sportive, ce que je suis en train de dire. Mais ça existait.
Justement, on fera pas de teasing, mais c'est un des axes que je vais proposer dans mon débat tout à l'heure. Des axes que je vais proposer. Parce que c'est intéressant ce que tu dis, JC, et on n'a pas du tout la même vision des choses. Moi, j'en ai une complètement diamétralement opposée.
Renaud Longuèvre, est-ce que pour toi, Lance Armstrong a un peu raison dans cette image qu'on a de Pogacar où il laisse rien aux autres?
Non. Moi, sincèrement, je trouve que il y a. Je vais citer une grande gueule qui est manager d'équipe de vélo avec qui on fait l'émission de temps en temps, qui dit les dirigeants dirigent, les cyclistes pédalent et les entraîneurs entraînent. On peut pas demander à Pogacar de prendre en compte l'opinion publique dans ce qu'il fait sur son vélo, dans la manière dont il court. Donc à un moment, si c'est le plus fort, c'est le plus fort, et s'il veut attaquer quand il veut, il attaque quand il veut. Faut à un moment, il y a le sport, c'est aussi la liberté, quoi. C'est la liberté de s'exprimer comme on a envie. Pogacar n'est pas Vingegaard, Vingegaard n'est pas Pogacar. Marie l'a dit tout à l'heure, Vingegaard est plus défensif, peut-être dans sa vie, dans son état d'esprit, dans son caractère. Tu sais, moi, les sportifs là, je part pour les JO, on passe leur temps à leur dire pas de calcul, arrêtez les calculs, on fait pas de calcul, on se projette pas trop. Donc il y a un moment, il faut laisser les gens s'exprimer. Donc si tu veux, moi je ferai pas de procès à Pogacar pour ce qu'il fait sur
un événement mondial planétaire avec une répercussion incroyable. Évidemment qu'il faut faire de la politique, faut arrêter d'être naïf.
Pogacar, il a de la mémoire, il en a bavé les éditions précédentes où il y a eu des retours de moments de situation. Je peux te dire que là, à chaque fois qu'il a pu appuyer et prendre un petit peu plus d'avance, parce que on ne sait pas sur un contre-la-montre, il aurait pu se faire remonter ou quoi, il n'allait pas s'en priver. Enfin, je veux dire, arrêtons. S'il a l'occasion de filer une étape à un de ses coéquipiers pour le remercier et tout, il le fera. Évidemment qu'il le fera. Ça se voit que c'est ce genre de mec-là. Mais là, il a fait en sorte de se mettre le plus à l'abri possible. Et qui pour le blâmer, quoi?
Et si hier il avait reculé au classement, et si hier il avait perdu du point, et si aujourd'hui il perd du temps et sur le chrono aussi, il sera bien content d'avoir attaqué tous les jours, parce que s'il est humain, il peut te coincer tous les jours, et ça il le sait aussi.
Right.
Et si il perd du temps aujourd'hui et hier et demain au chrono, il aura bien été content d'assommer un peu plus l'autre hier dans l'étape difficile. Et moi, on peut dire tout ce qu'on veut, respecter l'adversaire, c'est le dominer, c'est tout.
10h45, on clôt ce débat avec cette magnifique pensée philosophique de Jérôme Pinault. On se retrouve dans quelques instants. On s'en fout pas, et notamment du basket. Encore une défaite pour nos Bleus. Ça va mal, hein. Fred Weiss va tout vous dire. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h48, les grandes gueules du sport, toujours avec Fred Weiss, Marie Martineau, Renaud Longuèvre, Jérôme Pinault. À partir de 11h, nous allons parler de cette affaire des chants racistes argentins qui prend énormément d'ampleur, qui a pris beaucoup d'ampleur cette semaine. Est-ce que ça ternit les titres des Argentins? Je parle évidemment de la Coupe du Monde 2022, où il y avait eu également des polémiques, et puis cette Copa América il y a quelques jours. On en parle à partir de 11h, mais tout de suite on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est encore une défaite pour l'équipe de France masculine de basket. On s'en fout pas, Marie Martineau.
Ça t'étonnera pas, je m'en fous.
Ok, Fred Weiss.
Ça t'étonnera pas, je m'en fous pas.
Oui, j'imagine. Renaud Longuèvre.
Je m'en fous pas.
On s'en fout pas, Jérôme Pinault.
Je m'en fous pas.
Ok, troisième défaite de suite donc pour les Bleus à une semaine des Jeux Olympiques. L'équipe de France qui a été logiquement battue par le Canada 85-73 hier soir à Orléans. C'était l'avant-dernier match de préparation. On va écouter Rudy Gobert.
On a confiance en nos forces, on a confiance en qui on sait où on veut aller. Alors on n'est pas là pour avoir une médaille de participation, on est là pour accomplir quelque chose de grand et ça passera par battre des équipes de ce niveau à un moment donné. Donc je dirais, pas besoin d'être rassuré, il faut continuer à évoluer, continuer à progresser. La chose positive, c'est que là, je sens que voilà, il y a une progression chaque jour et chaque match. Le plus important, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit et ce qu'on propose des deux côtés du terrain. Et en général, si on est là où on doit être et on joue comme on doit être, on aura beaucoup de chances de gagner.
Pas d'inquiétude de la part de Rudy Gobert. Le dernier match, c'est dimanche soir, un dernier match de préparation face à l'Australie. Arnaud Valadon, bonjour.
Bonjour.
Tu étais hier à Orléans pour cette rencontre. Est-ce qu'il a raison quand il dit que cette équipe de France progresse ?
Oui, sur certains aspects. Alors déjà, il faut se souvenir qu'il y a un an, contre le Canada, la France en avait pris 30. C'était un match officiel, c'était la Coupe du Monde. Aujourd'hui, ils ont été plus dans le match, privé de Nicolas Batum, le capitaine, qui est insuffisamment remis de son syndrome grippal. Il était quand même présent sur le banc, il est revenu au contact du groupe. Les Canadiens, eux, n'avaient pas leur meneur titulaire Jamal Murray. Ils ont tenu jusqu'au troisième quart-temps, mais il y a encore des carences dans cette équipe, notamment offensive. Plus de 20 balles perdues pour les hommes de Vincent Collet, et ça, dans le basket international, c'est quasiment mortel. Donc c'est une équipe qui avance et j'ai envie de dire, elle ne l'inquiète pas forcément, mais elle ne rassure pas forcément non plus.
Arnaud Valadon, notre spécialiste basket sur RMC Sport. Wilfried Tempe...
Fred Weiss, pardon.
Il y a
je ressemble un peu,
aussi.
Il y a un air de famille avec Wilfried.
Tu souscris à ce que vient de dire Rudy Gobert ou pas?
Oui, j'ai envie de l'acheter en tous les cas. J'ai envie que ce soit vrai. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec Arnaud. Moi, j'ai eu l'impression que le Canada était en cruise control complet contre la France. En deuxième mi-temps, on a eu l'impression vraiment qu'ils étaient tranquilles sur un rythme hyper serein, calme. Ils ont pas eu besoin de forcer leur talent pour gagner. Alors que de l'autre côté, on trouvait pas de solution du tout. On a même fait place à un 5 complètement différent avec Gershon et Boussélé qui jouaient en position 3. Donc j'ai envie de dire que je suis inquiet parce que défensivement on nous promet beaucoup de choses, on prend 85 points et offensivement ça peine à trouver son rythme.
On fera un débat demain dans les grandes gueules du sport, on parlera et on reparlera de cette défaite de l'équipe de France, je le disais, la troisième de suite, et à savoir que demain soir il y aura donc le dernier match de préparation face à l'Australie. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Wilfried Apio qui est accusé de violence conjugale à une semaine des Jeux Olympiques. On s'en fout, on s'en fout pas. Marie Martineau.
On s'en fout pas.
Renaud Longuèvre.
On s'en fout pas.
Jérôme Pinault.
On peut pas s'en foutre.
Fred Weiss.
Je suis d'accord avec Jérôme, on peut pas s'en foutre.
Dans un entretien au Monde, une ancienne compagne de Wilfried Apio, c'est l'un des leaders de l'athlétisme français. Il évolue sur 400 mètres haies. Eh bien, elle l'accuse de violences répétées en 2018 et 2019. Et elle envisage de porter plainte sous peu. Ce n'est pas la première fois que Wilfried Apio est accusé de violence conjugale. À l'automne 2020, la triple sauteuse Janet Scott avait porté plainte contre lui pour des coups reçus en août de la même année. Il avait été rapidement relaxé par la commission de discipline de la Fédé qui n'avait pas écouté le témoignage de la plaignante et ne s'estimait pas en mesure d'établir si Wilfried Apio avait agressé Madame Scott ou s'il avait agi en situation de légitime défense. Fin de citation. À l'été 2022, c'est une athlète de l'INSEP qui avait porté plainte pour agression sexuelle en septembre 2021. Il avait été placé en garde à vue et confronté à la jeune femme qui avait maintenu sa version. Le dossier avait été classé sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Les deux fois, il faut le savoir, l'athlète de 25 ans avait nié les faits, les révélations du Monde et les accusations de violence conjugale contre Wilfried Apio. Eh bien, la Fédération française d'athlétisme a annoncé saisir la justice. Elle précise toutefois que ça ne remet pas en cause sa participation aux Jeux Olympiques. Marie Martineau.
Tu peux pas remettre en cause sa participation parce que pour l'instant, la justice n'a jamais tranché sur le fait qu'il soit coupable de ce qu'on lui reproche. En revanche, je lui souhaite bon courage parce que là, il va traverser son épreuve olympique face à la vindicte populaire. Et franchement, peut-être qu'il aurait mieux fallu qu'il soit jugé, même par les instances en temps et en heure à l'époque, et qu'il ait purgé sa peine et qu'il n'ait pas ça qui vient là, ce qui va lui tomber dessus. Ben, moi, je ne voudrais même pas y être.
Marie, il ne pourrait pas y avoir un principe de précaution quand même par rapport à ça, tu vois, se dire il y a un risque, ça se fait dans le cinéma, par exemple, il y a eu des cas dernièrement où on faisait plus tourner des mecs qui avaient cette présomption.
Imagine la pression que ça peut mettre à des athlètes dans certains cas avec certaines, enfin là tu marches sur la présomption d'innocence si tu fais ça, c'est quand même hyper compliqué. Enfin là je vois pas comment on peut sortir du cadre juridique.
Renaud Longuèvre.
Non, là, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que même si tu mets dans les modalités de sélection, attention, toute personne suspectée d'eux, bah, tu fais atteinte à la présomption d'innocence. C'est juste pas légal, en fait. Mais après, voilà, sur le fond de l'histoire, c'est quand même, ça fait trois fois. Si Wilfried a des problèmes, je pense qu'il a besoin d'être accompagné, tout simplement. Alors, évidemment, il faut aussi qu'il soit jugé s'il y a plainte et s'il y a procès. Mais je me dis voilà qu'il y a un moment ça pose encore la question de l'accompagnement psychologique, parce que si tu as des problèmes de violence comme ça, il faut une psychothérapie de manière assez urgente.
Oui, il faut d'abord que la justice passe. Il faut d'abord que la justice passe. Et si les faits sont avérés, il y a d'abord la justice, donc une réparation à ce qui s'est passé, et ensuite évidemment un accompagnement, ou en même temps en tout cas, mais ça peut pas juste passer par un accompagnement, il faut une réparation.
Si justice elle met 2 ans à passer, pendant 2 ans le mec il est dans la nature, et puis et si ça se trouve tous les jours il frappe des gens, tu vois, donc ça... Moi, je pense d'abord à ça. Il faut prendre en charge ce genre de problème. S'ils sont avérés.
Bon, en tout cas, on reparlera de Wilfried Appiot et forcément de ses accusations à une semaine des Jeux Olympiques. Juste vous dire, je n'ai pas eu le temps de vous placer, mais il y a un jeune Français qui s'appelle Jeff Herius, qui est seulement âgé de 20 ans, qui a explosé son record sur 100 mètres. Il est descendu sous les 10 secondes, 9 secondes, 98. Ce n'est pas pour ça qu'il va aller au JO, parce que les minima, c'était avant le 30 juin. Hey. Voilà, c'est juste pour vous donner l'info. Il fera partie du relais et on en reparlera demain. Et puis, je ne vous ai pas non plus donné le résultat des féminines de basket, parce qu'on a parlé des hommes qui ont perdu, mais les filles, elles, ont gagné face au Japon. 75-62, c'était à Reims, 4e succès en 4 matchs de préparation. Voilà, c'était aussi important d'en parler. On se retrouve dans quelques instants pour parler de cette polémique des chants argentins, chants racistes. Est-ce que ça ternit l'image de l'équipe d'Argentine, et surtout, est-ce que ça place largement au second rang leur titre, la Coupe du Monde et la Copa América? Tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.